Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute du 200e numéro de Métropolez-vous sur Radio Présence, où le radiodon se poursuit jusqu'à samedi. Comme vous le savez, une radio associative a besoin du soutien de ses auditeurs pour financer son fonctionnement et son développement. Nous comptons donc sur votre générosité pour continuer à vous proposer des programmes de qualité et des émissions telles que Métropolez-vous. Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez nous appeler au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, mais vous pouvez aussi donner directement en ligne sur notre site web www.radioprésence.com. Soyez remerciés à l'avance. Pour revenir au présent numéro, il va être consacré aux mesures qu'a annoncé récemment Toulouse Métropole pour faire face à la crise énergétique et aux contraintes auxquelles elle oblige les collectivités, des contraintes qui imposent à la fois de faire des économies, de consommer mieux et moins, mais aussi de développer de nouvelles manières de produire de l'énergie, un vaste chantier ouvert autour d'un plan comportant 25 mesures que je vous propose de découvrir au cours de cette émission. Mon invité pour ce 200e numéro et pour vous présenter ces 25 mesures est un habitué de Métropolez-vous puisqu'il s'agit de François Cholet, conseiller municipal délégué à la mairie de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole chargé de l'écologie, du développement durable et de la transition énergétique. Bonjour et bienvenue à vous aussi, monsieur le vice-président.
Bonjour.
La crise énergétique va donc être au cœur de notre discussion et je me demandais en la préparant si ses conséquences pour les citoyens, les entreprises et les commerces de la métropole toulousaine constituent le premier sujet de préoccupation du Conseil métropolitain. J'ai tendance à penser que c'est devenu le sujet transversal par excellence.
Bon, c'est clair que c'est un sujet qui est majeur. Les retours que nous avons de tout le monde de cette période de crise nous montrent que les gens sont préoccupés par les factures énergétiques, sont préoccupés par cette atmosphère de crise permanente dans laquelle on vit. Et vraiment, la question énergétique est au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Et c'est vrai que c'est donc le cas à la métropole et le Conseil métropolitain, à travers l'acte 2 du plan climat, à travers les mesures qui y sont promues, essaie de s'adapter à cette situation et de faire en sorte que les choses soient les plus acceptables possibles pour la population.
Nous allons détailler avec vous dans quelques minutes ces 25 mesures décidées par Toulouse Métropole pour faire face à la crise énergétique et consommer mieux et moins. Avant cela, est-ce qu'on peut savoir comment, ou plutôt à partir de quels constats, quelles réflexions et quelles analyses et avec quels intervenants ces 25 mesures ont été déterminées ?
Alors c'est une réflexion globale qui est une réflexion interne et pour être très honnête, elle ne date pas de cette période-là. Déjà dès 2014, nous avions cette préoccupation. Je prends l'exemple de l'éclairage public. Nous sommes à 70% de LED. Déjà, nous avions pris de l'avance. Nous avions quelque part anticipé, je ne sais pas si c'est une intuition, mais nous avions anticipé cette nécessité de sobriété énergétique. Ceci dit, quel est l'objectif ? L'objectif, c'est de diminuer clairement la consommation et nous avons... La cible, c'est celle de 10% à 2 ans de consommation énergétique. Et puis, c'est aussi celle du maintien du service public. Et les avis que nous avons pris, le travail qu'a fait les services, qui est un gros travail, a permis justement d'équilibrer les choses. Et la consigne est tenue, c'est-à-dire que nous baissons la consommation énergétique en maintenant le service public.
Donc, réflexion longue menée de longue date par les élus, les services métropolitains, et j'imagine aussi des experts du sujet.
Bien entendu, nous avons pris des avis extérieurs, nous avons essayé de regarder ce qui se passait aussi dans les autres métropoles, nous avons écouté les incitations gouvernementales. Tout ceci, c'est la communauté, si vous voulez, des collectivités territoriales qui s'est groupée autour des différentes associations et qui a permis de prendre ces avis techniques et d'avancer dans ce sens.
Alors, l'actualité, effectivement, oblige toutes les collectivités à faire des économies, mais je pense aussi qu'il s'agit de promouvoir auprès des citoyens et des services des collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, une consommation aussi plus responsable et plus respectueuse de l'environnement.
Ah oui, ça c'est tout à fait clair. Donc il y a des mesures qui sont individuelles, de discipline et de sobriété individuelle. Puis derrière, il y a ce que les politiques publiques peuvent apporter aux citoyens sur le fond des choses, c'est-à-dire dans la production d'énergie, d'une nouvelle forme d'énergie, on parle des énergies renouvelables, on en dira peut-être un mot, ce qui est un élément important, et puis aussi dans une consommation j'allais dire, plus adaptées, avec un élément qui est fondamental pour chacun d'entre nous, qui est celui de l'isolation des bâtiments, l'isolation des logements, l'isolation des bâtiments publics, l'isolation des bâtiments industriels, qui sont un objectif prioritaire.
Merci pour ces premières informations, François Chollet. Nous entrerons dans le détail des mesures un peu plus tard dans cette émission. Dans l'immédiat, petit crochet comme d'habitude par l'actualité métropolitaine avec Corinne Saint-Félix et son traditionnel flash d'informations hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Et nous ouvrons ce flash avec une première information dans le domaine des transports, puisque la descente à la demande est désormais étendue à tous les bus Linéo en soirée.
Oui, une nouvelle offre mise en place après un an de tests sur les Linéo 1 et 2. Elle permet aux voyageurs qui le souhaitent, et notamment quand ils éprouvent un sentiment d'insécurité, de demander au conducteur de bus de s'arrêter entre deux arrêts pour être plus proche de sa destination finale. C'est le conducteur ou la conductrice du bus qui décidera de la faisabilité de la demande du passager en fonction de plusieurs critères, éclairage suffisant, visibilité, absence de véhicules stationnés, cheminement piéton à proximité. Cette possibilité sera offerte à tous les passagers des bus Linéo entre 22h et minuit 30. À noter, un ticket spécial avec un visuel inédit édité à 100 000 exemplaires qui va être vendu pour sensibiliser les voyageurs aux problématiques des violences faites aux femmes et aux services de descente à la demande.
L'agriculture urbaine à la côte à Toulouse et la métropole fait en sorte de la développer dans les quartiers.
Pour permettre à chacun d'accéder à une alimentation saine et durable, elle a inauguré la friche Didier Dorat. Cet espace vert du quartier de la Rainerie a été transformé en un lieu de culture maraîchère et fruitière ouvert à tous, cultivé, entretenu et animé par les différents acteurs et partenaires du projet. Espace d'agriculture urbaine et de cueillette en accès libre, il a suscité un véritable engouement auprès des habitants du quartier. Des manifestations liées à la nature en ville y sont régulièrement organisées. La friche Didier Dorat fait partie des sites créés par Toulouse Métropole dans le cadre de l'appel à projet Quartier Fertile lancé par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine en 2020.
Et puis nous terminons avec un petit cocorico. La place Saint-Cernin de Toulouse est arrivée en finale pour le prix de l'espace public européen.
Créé par le Centre culturel contemporain de Barcelone, ce concours a réuni pas moins de 326 candidats en provenance de 35 pays. La place toulousaine a connu d'importants travaux jusqu'en 2019. L'espace de 18 000 m² a été considéré par le jury comme un espace public apaisé qui réussit à la fois à valoriser la basilique romane et à intégrer de façon harmonieuse des espaces végétalisés et conviviaux ouverts autour de l'édifice. Toulouse a plus que tiré son épingle du jeu en faisant partie des 5 finalistes. Pour Toulouse Métropole, cette sélection vient donc récompenser l'important projet d'aménagement urbain qui conjugue l'histoire d'un site classé au patrimoine mondial de l'humanité avec la basilique Saint-Cernin, joyau de l'art roman, mais aussi des espaces de promenade et de verdure en cœur de ville.
Un grand merci à Corinne Saint-Félix pour ce flash d'informations métropolitaines. François Chollet, une réaction à ce que vous venez d'entendre, notamment peut-être sur les deux premières informations qui concernent votre compétence, hein, tout ce qui a trait à la transition énergétique et au développement durable.
Oui, effectivement, la descente à la demande, c'est un plus. Nous sommes très heureux de pouvoir mettre ça en place. Tisséo le fait et je pense que Tisséo a pris le temps, avec l'expérimentation sur les Linéo 1 et 2, de mûrir cette mesure. Mais elle répond à un sentiment d'insécurité. Elle s'inscrit dans la lutte des violences faites aux femmes, parce que même si c'est pas exclusif, c'est quand même beaucoup de ce côté-là sur les femmes que porte cette mesure. Et donc, je pense que c'est un plus réellement. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une deuxième commentaire sur l'agriculture urbaine. Alors ça, c'est... Il faut savoir que 45% des terres de la métropole sont non bâties. C'est beaucoup. Alors évidemment, il y en a plus de non bâties, plus on s'éloigne. Mais c'est très important pour nous, c'est le plan agricole et alimentaire métropolitain, de pouvoir développer sur les sites métropolitains des espaces de maraîchage, de façon à imprimer ces circuits courts, à faire en sorte que, on puisse se servir finalement de la production locale sans faire venir les légumes ou les produits de très loin. Et je pense qu'en plus, il y a une adhésion populaire à ce type de mesures. Je pense que les gens sont contents de ça. Donc c'est un des gros enjeux, effectivement, de ce mandat, et ce sera un des enjeux des mandats suivants. C'est celui du maintien de cette capacité de terre agricole. Ce sont des surfaces fertiles, ce sont des surfaces utiles, ce sont des surfaces qui servent nos familles et nos enfants. Et il faut vraiment qu'on arrive à trouver un modèle, et on progresse dans ce modèle, qui soit un modèle de circuit court en matière alimentaire. Je pense que les expériences qui sont en cours sont extrêmement satisfaisantes, sont extrêmement encourageantes, et on est sur ce chemin, clairement.
Merci François Cholet d'avoir bien voulu réagir à l'actualité métropolitaine. Avant de revenir au sujet principal de cette émission, donc les 25 mesures de Toulouse Métropole pour consommer mieux et moins, je refais un appel aux dons à nos auditeurs, à tous ceux qui veulent soutenir notre radio. Je vous invite à appeler le 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, ou à faire directement un don en ligne sur le site www.radioprésence.com.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous avec François Cholet, conseiller municipal délégué à la mairie de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole en charge de l'écologie, du développement durable et de la transition énergétique. Si vous le permettez, comme vous avez souvent été l'invité de cette émission et parfois même de la matinale de Radio Présence, j'ai la faiblesse de penser que vous aimez vous y exprimer. Alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, que cette radio mérite d'être soutenue par ceux qui nous écoutent ?
Alors écoutez, c'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour Radio Présence. Cette radio allie à la fois un grand professionnalisme et également une capacité d'écoute. Vous prenez le temps d'écouter et de comprendre. Et de comprendre, pas dans la superficialité, mais de comprendre les choses simples, mais aussi les choses plus complexes, en sachant que tout n'est pas blanc et noir. Je pense que ceci, c'est tout à fait remarquable. Donc bravo pour votre action.
Ben, merci beaucoup pour ces mots, François Cholet. On en revient à notre sujet du jour. De manière générale, et pour avoir une première vue d'ensemble, hein, quels sont les grands axes retenus pour concevoir les 25 mesures de Toulouse Métropole pour consommer mieux et moins ? Est-ce qu'on peut les regrouper en priorité ?
Donc c'est une action des villes et de la métropole et de la ville de Toulouse. Donc le regroupement, c'est quoi ? C'est en fait des mesures pour économiser l'énergie dès cet hiver. Économiser l'énergie dès cet hiver, c'est les bâtiments publics, c'est la voirie, les transports en commun, c'est les bâtiments administratifs. Le grand chapitre initial, c'est celui-là. Donc après, dans les bâtiments publics, nous avons décidé de baisser la température, dans les gymnases à 15 degrés, dans les piscines de 1 degré. Nous avons décidé aussi de mettre en place un revêtement synthétique à la patinoire de Bellevue, ce qui nous permet quand même d'économiser 300 MW chaque année. C'est donc une série de mesures sur ces bâtiments publics. Dans les bâtiments administratifs de la métropole, donc la température maximale, c'est 19 degrés, y compris d'ailleurs dans les écoles, excepté les crèches et les EHPAD.
Pour des raisons qu'on peut comprendre.
Oui, vous l'avez dit. Ensuite, c'est l'extinction de l'eau chaude dans les bâtiments, c'est un chauffage qui démarre plus tard le matin et qui est arrêté plutôt le soir. Donc voilà quelques, sans être exhaustif, voilà quelques exemples qui sont
des
exemples
de bon sens.
Voilà, ce sont des exemples de bon sens, mais qu'il fallait mettre en œuvre. Et je dois dire que l'adhésion de l'ensemble du personnel de la métropole est totale à ce type de mesures.
Alors nous évoquions tout à l'heure les transports en commun avec les bus linéaux. De ce point de vue, on sait que c'est évidemment un consommateur d'énergie, hein, les bus, le métro. Qu'est-ce que vous avez décidé ?
Alors, il ne faut pas donner de mauvais signal. Hein. C'est-à-dire que si on diminue les transports en commun, les gens risquent de ne plus retrouver le service. Donc l'idée, c'est de maintenir le service en essayant de faire des économies à service équivalent. En fait, c'est toute la difficulté de ce type de mesure. Donc là, en matière de transport, donc, il y a l'ajustement de la fréquence des lignes A et B du métro. Avec un heure creuse, un temps d'attente peut augmenter entre les lignes. C'est l'arrêt de Téléo à 22h au lieu de minuit. Vous voyez, ce sont des mesures qui permettent une certaine économie sans dégrader de façon majoritaire, sans être contre-productive et être dégradé de façon importante le service public, le service des transports.
Et puis alors sur la voirie, évidemment, un gros poste de consommation et donc de dépenses, bah c'est l'éclairage public. Alors ça, on en parle depuis des années, aussi pour l'aspect pollution lumineuse. On sait qu'il y a des gens qui s'en plaignent, mais là maintenant, nécessité fait loi et il va falloir aussi regarder comment on peut faire des économies sur l'éclairage. Qu'est-ce que vous avez décidé ?
Alors, ce que je disais, c'est que effectivement, il y a deux aspects. Il y a l'équipement technique, c'est-à-dire le passage au LED, qui permet des économies notables. Donc ça, nous l'avions anticipé par rapport à d'autres villes. Nous sommes à 70% des LED. Nous allons le poursuivre de façon à ce que l'ensemble de l'éclairage public soit équipé d'ampoules économes. Ça, c'est parfaitement clair. Puis il y a aussi l'usage, si vous voulez. Alors, sachant que, d'ailleurs, cet éclairage public, nous avons décidé de l'éteindre, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres villes de la métropole au cœur de nuit, à l'exception des endroits passants. Donc il faut être clair là-dessus, je pense au centre historique de Toulouse, je pense à la gare Matabiau, la place Abale par exemple, qui ne seront pas éteintes.
Oui, parce qu'il y a un aspect sécurité tout de même.
Voilà, ouais. Donc il faut conserver ces choses-là, il ne faut pas que ce soit donc, au détriment de la sécurité. Et donc ceci va nous permettre également d'économiser de façon notable de l'énergie.
On arrive à la période de Noël, vous voyez où je veux en venir. Et bon, bah, il y a toutes les décorations lumineuses hein, propres à cette période de l'année auxquelles les citoyens sont attachés. On sait aussi qu'il y a des polémiques depuis quelques années là-dessus. Il y en a qui disent on en fait trop, ça consomme énormément. Là aussi, vous allez ajuster, je suppose. Ça va être quoi? Ça va être la durée? Vous allez commencer plus tard?
Ceci dit, bon, la fête, c'est la fête. Hein. Il faut garder cet esprit-là, ça fait partie à la fois des traditions, mais aussi de la vie des gens. Et donc, il faut faire attention avec ça. Par contre, effectivement, ce que l'on peut proposer, c'est de commencer plus tard, de finir plus tôt, c'est-à-dire cette période de Noël, et de faire en sorte que chaque jour, l'éclairage soit un peu moins prolongé, on allume un peu plus tard et on éteint un peu plus tôt. Donc là aussi, ça fait partie des mesures d'économie que nous mettons en place. Par exemple, nous éteignons l'éclairage des monuments et des décorations de Noël à 22h, ce qui n'était pas le cas, c'était plus tard.
Alors on l'a dit, pour faire des économies, c'est consommer moins, mais c'est aussi consommer mieux. Et pour consommer mieux, la grosse piste d'économie, c'est la rénovation énergétique. Il y a déjà des choses. Vous allez encore accélérer le mouvement.
Ah, je crois que c'est un enjeu colossal. C'est un enjeu colossal à l'échelon alors de la ville et de la métropole, qui est propriétaire de bâtiments qui méritent d'être rénovés et isolés. C'est un enjeu au niveau industriel. Il y a tous les bâtiments tertiaires, tous les bureaux qui existent, toutes les usines ont besoin de travailler là-dessus. Et je sais que les industriels se préoccupent là-dessus. Et puis, c'est un enjeu individuel. Ah, c'est pour chacun d'entre nous, comment vais-je faire pour faire en sorte que l'appartement, la maison dans laquelle je vis, soit la mieux isolée, la plus économe. Et donc, cette transition-là vers ces économies, vers la rénovation des bâtiments, elle doit s'accompagner. Elle est complexe à l'échelon individuel. Et c'est la raison pour laquelle nous avons transformé l'espace Infoénergie en cette maison de l'énergie qui est à Marengo maintenant, qui a été ouverte cette année, qui est d'ailleurs un grand succès et qui est capable d'accompagner les individus et les copropriétés qui sont parfois, je n'ai pas peur de le dire, un peu en retard là-dessus, sur cette affaire de la rénovation énergétique. J'insiste là-dessus parce que notre objectif, nous rénovons à peu près 3000 logements par an, il faut que nous passions à 7500. Nous allons le faire et nous mettons les moyens avec la maison de l'énergie. La maison de l'énergie vous permet de faire un audit, premier point, mais elle vous permet aussi d'accompagner la rénovation que vous avez choisie, que chacun des particuliers a choisi. Avec une sélection, nous proposerons un annuaire d'artisans qui se sont engagés dans cette
rénovation. Qui sont en quelque sorte agréés par la métropole.
La métropole s'engage avec les industriels pour donner un service de qualité, pour sortir de cette espèce de flou dans lequel on est. Elle s'engage sur le plan technique pour que ce soit les meilleures technologies, et il y aura des conseils là-dessus. Elle s'engage aussi, la métropole et la maison de l'énergie, à donner des informations, des conseils sur les primes, puisque ceci, il y a des aides, qui sont soit des aides d'État, soit des aides de région, soit des aides de la métropole.
Notamment pour les foyers les plus modestes.
Absolument, absolument. Pas que, mais pour les foyers les plus modestes, pour permettre de faire en sorte que cette rénovation... Et puis, une rénovation énergétique, ça s'évalue. C'est-à-dire qu'il y a un bénéfice financier à la fin. Il doit y avoir.
Il doit y avoir.
Donc, il faut le modéliser. Il faut pouvoir dire, voilà, vous consommiez tant, vous consommerez tant, et donc l'économie sera ça. Donc, vous allez payer et on va payer.
Votre investissement va être remboursé.
Remboursé en temps donné. Donc, ça se modélise. Donc, la maison de l'énergie est là. Donc, moi, j'incite les particuliers à s'y rendre, à téléphoner, à écrire par mail. Nous essayons de donner les réponses le plus rapidement possible. C'est pas facile parce qu'il y a vraiment, on a doublé, les appels ont doublé. Élément positif, je vois que quelques copropriétés viennent maintenant se renseigner à la Maison de l'Énergie. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et j'espère que nous allons continuer à augmenter le personnel de cette Maison de l'Énergie.
Pour pouvoir accueillir toutes les demandes
au cours de l'année
2023. Et les traiter
essayer de traiter tout ça rapidement.
Oui, alors, vous avez soulevé un point qui me paraît très important, c'est qu'il y a des gens qui hésitent à se lancer dans la rénovation énergétique de leur maison, entre guillemets, parce qu'ils ont peur de se faire rouler. Le fait que vous proposiez un annuaire d'artisans, d'industriels agréés par Toulouse Métropole, il y a une espèce de garantie, si je puis dire, morale de votre part.
Absolument. Nous avons réuni, et j'ai participé à plusieurs réunions avec les industriels là-dessus, dans lesquelles nous leur avons demandé deux choses. Nous leur avons demandé, un, de se former, de garantir une formation, que les gens, les artisans soient formés, soient aptes à travailler sur la rénovation énergétique. Et deuxièmement, c'est un engagement de bonnes pratiques, c'est-à-dire de compétences, de prix, de maintien de prix et puis de maintien des travaux. Et d'ailleurs, la Maison de l'Énergie propose aux particuliers de suivre les travaux, si ceux qui le veulent, et puis de vérifier tout ceci.
Un point important aussi, vous l'aviez évoqué il y a quelques minutes, c'est la production d'énergie renouvelable. Aussi, les bâtiments dits à énergie positive, il y a des choses qui avaient déjà été enclenchées. Vous allez là aussi accentuer l'effort, accélérer le mouvement.
Alors, c'est un enjeu fondamental du plan climat. Nous sommes engagés à doubler la production d'énergie renouvelable d'ici à 2030. Et c'est vrai que nous avons plusieurs pistes que nous suivons et que nous privilégions. Peut-être la première, c'est, parce que c'est déjà un peu derrière maintenant, mais je le mentionne, c'est l'énergie hydroélectrique de la Garonne qui nous permet d'éclairer la ville de façon majoritaire avec cette énergie. C'est aussi un investissement dans le photovoltaïque. Vous avez vu l'espace photovoltaïque de l'Oncopole, c'est un exemple d'investissement dans le photovoltaïque. Nous souhaitons le massifier. Nous avons identifié des points de l'espace public sur lesquels nous allons pouvoir mettre des ombrières sur les parkings, par exemple. Nous souhaitons le massifier. Nous souhaitons aussi, à travers les conseils, c'est les conseils de la Maison de l'Énergie, faire en sorte que les particuliers puissent accéder au photovoltaïque. Et puis, il y a aussi le biogaz. Disons-le, le biogaz, c'est Ginestou, c'est la méthanisation qui fait partie de nos investissements. Et puis enfin, il y a les réseaux de chaleur, c'est une énergie de récupération, c'est-à-dire que c'est l'énergie...
La géothermie.
Alors, il y a la géothermie et puis il y a aussi l'énergie qui est produite par l'incinération des ordures qui permet de chauffer donc, plusieurs secteurs de Toulouse maintenant et que nous allons continuer d'étendre. Donc ça, c'est un programme en cours qui est parti et sur lequel il faut vraiment insister parce que nous aurons besoin de ces énergies renouvelables. On ne se contentera pas de l'énergie renouvelable. Il nous faudra des socles énergétiques autres, mais ça fera partie du mix énergétique et nous avons à continuer à investir là-dessus.
Bon, on ne va pas détailler toutes les 25 mesures, on en a déjà donné beaucoup, mais est-ce qu'on peut dire que ces mesures ont fait l'objet d'un large consensus au sein du Conseil métropolitain, toutes tendances politiques confondues ?
Ah, je pense qu'il y a peu de discussion là-dessus. Je pense qu'effectivement, tous les élus sont parfaitement concernés. Alors, c'est le cas à la métropole, mais je sais que dans chacune des mairies, la ville de Toulouse, bien entendu, mais je sais que dans chacune des 36 autres mairies de la métropole, cette dynamique s'imprime, finalement, et à la fois, les collectivités donnent l'exemple et essayent de promouvoir à travers des informations, à travers des conseils, cette politique de sobriété énergétique. Oui, large consensus.
Vous avez calculé l'effet, les gains que devrait occasionner tout ce programme, toutes ces 25 mesures. 10% sur 2 ans, c'est ça le...
Oui, c'est le but que nous avons fixé. C'est ce qui est,
et c'est intégré au PCAET, au plan climat.
Et ça fait partie effectivement des objectifs généraux, donc 10%, c'est sur l'ensemble de la consommation municipale et métropolitaine. Ça fait partie des objectifs. Nous allons l'évaluer très, très précisément. On va voir si l'hiver est rigoureux, ce sera peut-être plus compliqué que si l'hiver n'est pas rigoureux, si les deux hivers qui viennent ne sont pas rigoureux.
Bien sûr,
mais en tout cas,
des questions qui se posent à l'échelon national, de toute façon.
Exactement, mais en tout cas, le pli est pris. Oui.
Oui, parce que s'il y avait des problèmes, des ruptures dans la production d'électricité, comme ça a été parfois laissé augurer, si l'hiver est très rude, notamment les centrales nucléaires, arriveront-elles à suivre ou pas ? Est-ce qu'il sera possible d'accentuer les restrictions que vous avez déjà prévues dans ces 25 mesures ?
Alors, les restrictions, donc les mesures que j'ai énoncées, ne s'accompagnent d'aucune suspension ni fermeture de services publics.
Voilà, le service public est maintenu quel qu'il soit.
Est maintenu quel qu'il soit. Effectivement, s'il y a des ruptures, il y a d'autres possibilités, mais il sera alors plus difficile de maintenir le service public sur l'ensemble des opérations.
En suivant les
il y aura des choix à faire, ce sera probablement difficile, ce sera transitoire, mais effectivement, ce sera plus compliqué de maintenir le service public.
Le but étant, je suppose, avant tout de maintenir notamment les transports.
Les transports, c'est une priorité, évidemment. Mais...
Et puis l'ouverture des établissements publics.
Exactement. En tout cas, j'espère, nous ferons, et c'est l'objectif que nous a donné Jean-Luc Moudin, c'est de maintenir le service public au maximum, et nous allons le faire.
Le moment de conclure, ce numéro est arrivé. Merci beaucoup François Chollet d'en avoir été l'invité, de nous avoir présenté les 25 mesures de Toulouse Métropole pour consommer mieux et moins et donc faire face à la crise énergétique. Vous pouvez en retrouver tout le détail en consultant le site de Toulouse Métropole à l'adresse www.metropole.toulouse.fr. N'hésitez pas non plus à contacter la Maison de l'énergie, c'est très important si vous envisagez de faire rénover votre bâtiment, son isolation. Avant de rendre l'antenne, je refais un appel aux dons à nos auditeurs, à tous ceux qui veulent soutenir notre radio. Je les invite de nouveau à appeler le 05 62 48 63 00 ou à faire directement un don en ligne sur notre site www.radioprésence.com. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous un très bon week-end.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.